Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusille.com ou en DAB+ sur la métropole lilloise. Deuxième partie de cette émission, elle va être consacrée à la littérature. Thierry Moral nous a rejoint. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors, on se connaît depuis un bon moment. Et donc, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Là, tu as une actualité dont on va parler. Peut-être tu pourrais nous donner quelques grandes lignes. Il y a plusieurs choses dont on peut parler. Mais on va préciser cette émission autour de Dame Pissenlit. Mais je sais que tu as d'autres choses aussi.
Oui, j'ai eu le plaisir de pouvoir voir sortir deux textes, donc Dame Pissenlit, qui est un roman publié chez MVO Éditions, et quasiment dans le même temps, une pièce de théâtre intitulée Après l'inondation, une épopée, publiée aux éditions Réartis. Et puis en tant que conteur, comédien, écolagiste, j'ai un certain nombre d'activités brûlantes liées à cette rentrée culturelle singulière.
Alors, aujourd'hui, on va parler d'un roman qui s'appelle Dame Pissenlit. Alors, pour t'interviewer sur ce roman, je vais, au lieu de te poser des questions, plutôt te proposer des mots. Des mots qui ont un sens, bien sûr, par rapport à cet ouvrage que j'ai lu et qui sont peut-être des clés d'introduction d'un travail que tu as réalisé autour d'un thème que tu vas présenter. Donc, Dame Pissenlit, peut-être qu'on peut quand même donner un petit peu l'idée de qui est cette dame ?
Alors, c'est l'histoire de Sandra. Sandra est une jeune femme d'une trentaine d'années qui, sur le début du roman en région parisienne, attend le bus avec un papier de la médecine du travail lui interdisant de reprendre le travail, son travail de fleuriste, car elle n'est pas apte due à sa pathologie, à savoir un cancer du sein. Et c'est le début et elle va voir passer une manifestation, voilà, avec des migrants, des sans-papiers. Et à partir de là, il y a tout un mouvement qui va se mettre en place.
Voilà, donc je vais te donner des mots qui interviennent en termes de contexte. Donc tu parlais de sans-papiers, on pourrait parler de jungle également.
Oui. Tout à fait, le mot jungle va être important parce que dans ce dispositif narratif, sans tout raconter, sans tout dévoiler, ils vont découvrir les difficultés, donc cette jungle urbaine, se faire entendre, se faire traquer. Ils vont décider d'essayer de mettre en place un lieu où on pourrait vivre autrement, donc une ZAD, on peut dire ça comme ça, du côté de Saint-Omer, et où il va y avoir tout un collectif à inventer une manière de fonctionner, les ronces et j'ai envie de dire les mauvaises herbes et autres végétaux pas forcément bien accueillants vont devoir être défrichés comme dans une jungle, autant que certains comportements humains.
Alors deux mots associés, on pourrait dire là, avec squat et autogestion.
Oui. Donc en effet, on se doute bien qu'après cette rencontre avec cette manifestation, Sandra va décider de poursuivre. Ils vont s'installer dans cette ZAD, dans cette zone, où ils vont décider de mettre en place d'autres règles basées sur l'autogestion, où deux valeurs vont être annulées, en tout cas dans des tentatives. La notion d'argent et la notion de violence. Et à partir de là, chacun prend ses responsabilités de suivre cette voie ou pas. Et elle va être là, comme un symbole, et à la fois présente ou comme une main, voilà, dans cette expérience de vie qui va s'inventer.
Alors, deux autres mots que je vais associer, résistance et survivre.
Oui, alors Sandra va devenir le symbole de cette ZAD, de cette friche industrielle qui revit, qui était une usine dont on ne sait pas trop ce qui s'y faisait. Elle va revivre avec tout ce collectif de clandestins, de sans-papiers qui s'y installent. Et Sandra, qui a perdu ses cheveux suite à son traitement, a les cheveux qui repoussent. D'où le titre, Dame Pissenlit, avec ses cheveux qui repoussent comme des pissenlits sortant entre deux pavés, entre deux bouts de bitume. Et elle va devenir malgré elle le symbole de cet endroit, et les enfants vont lui offrir des colliers de pissenlits, des taggers, vont se mettre à s'exprimer sur le mur, et ça va devenir le symbole de la résistance.
Donc deux mots aussi qui sont un peu le côté dur de cette expérience, il y en a plusieurs, hein, mais on pourrait associer toilette et vomir par exemple.
Alors oui, le deuxième mot vient assez tôt, quand ils vont prendre le bus, suite à la dureté de certains traitements et puis à la chaleur, aux conditions de transport un peu rudimentaires, des minibus chargés à deux fois le contenu prévu à cet effet. Voilà, Sandra va être dans une difficulté, on va dire, de supporter la chose. Et pendant une pause, elle va vomir. Alors, ce roman a été écrit comme une histoire, à la troisième personne du singulier, du moins au début, et entrecoupé de moments poétiques, de moments slamés, on en parlait tout à l'heure, de moments où la poésie va prendre le relais, et elle n'est pas toujours, cette poésie guillerette et joyeuse, elle peut refléter une réalité un peu sordide, mais comme dit dans le roman, vomir ça fait du bien. Quant aux toilettes, elle va découvrir un mode de fonctionnement parfaitement singulier au sein de cette ZAD, et elle va y découvrir qu'on peut fonctionner autrement, que le confort n'est peut-être pas une fin en soi.
Alors, un mot que j'ai déjà utilisé tout à l'heure, autogestion ou cogestion peut-être, et avec quelque chose qui est un petit peu antinomique, mais dans l'histoire quand même qui existe. Le mot « meneur ».
Oui, tout à fait. Il y a un endroit dans cette ZAD où il y a un tonneau avec du feu. Et donc, la plupart du temps, ce sont des hommes qui s'expriment, qui prennent la parole. Ils sont plusieurs. Alors, il y a un moment donné où ils sont interpellés par la presse, par des politiques. Et ils démontrent par l'expérience qu'il n'y a pas de meneur, dans le sens où chacun peut prendre la parole. Donc il y a un moment comme ça où chacun va se passer le bâton de parole, mais néanmoins, il y a quand même des locomotives, des énergies qui prennent des bonnes décisions et parfois des mauvaises. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Sandra veut prendre parti de cette action, et va le faire dans la limite de ses moyens, même si un certain nombre de personnes vont très souvent lui rappeler qu'elle a des limites et qu'il faut faire attention et que ceci et que cela, mais elle va participer à sa manière.
Il y a également une phrase que j'ai notée, alors je ne sais pas, tu peux peut-être nous préciser après justement quand tu as écrit ce texte, je vais te citer. Un jour, nous circulerons peut-être tous le visage masqué comme en Chine.
Alors, j'ai commencé à écrire ce roman il y a plus de 6 ans. Je l'ai laissé reposer, comme un certain nombre de mes écrits. Je n'arrive pas toujours. Soit j'ai conçu un plan et je ne suis pas satisfait, les personnages prennent vie et ce qui a été prévu dans le plan ne me convient plus. Voilà, c'est le cas pour Dame Pissenlit. Ou soit je n'avais pas de plan et donc je laisse reposer. Je me dis, au fait, ça va où cette histoire? Donc j'aurais voulu le terminer plus tôt. Je l'ai commencé il y a 6 ans. Le premier confinement m'a permis de replonger dans mon tiroir où il y a mes manuscrits en souffrance. Et cette phrase en faisait déjà partie. partie parce que tout ce que j'ai réécrit était et vraiment sur la suite où il y avait une décision à prendre. Est-ce que j'allais continuer à raconter, à associer le parcours de Sandra à cette expérience d'autogestion et de zone à défendre, ou est-ce que j'allais plus me concentrer sur son parcours à elle et d'autres chemins de vie? C'est la deuxième option que j'ai choisie. Ni non, donc ce n'était pas intentionnel, et il n'empêche que la réalité a rattrapé le propos.
Voilà, évidemment le contexte était très différent. Là, dans ce livre, on parlait plutôt des pollutions, hein, avec les masques anti-pollution, plutôt au Japon d'ailleurs, plutôt qu'en Chine, cette époque où tu as écrit. Hein. Et maintenant, évidemment, les masques sont apparus assez copieusement sur la scène chinoise et par la suite, évidemment, sur d'autres terrains. Pas de jeu, hein, on va dire ça comme ça. On va parler de la forme maintenant de ce roman. Alors, au niveau du... Bon, je veux dire, il est assez conséquent, il y a pas mal de pages. Hein. Tu as utilisé une façon d'écrire avec... on peut dire deux formes un peu différentes. Il y a une partie qui est purement l'action, la narration de l'action, et puis une partie qui serait plutôt écrite un peu différemment, de l'ordre de la réflexion, des bilans, voilà.
Oui, alors au niveau formel, oui, il y a des questions de fond, il y a des questions de forme. Au niveau de la forme, il y a deux types d'écriture, une forme romanesque assez classique et une forme, on va dire, plus poétique et slamée. Ces deux me permettent d'une part, c'est de cette manière que j'écris spontanément, donc je ne peux pas en faire abstraction, et d'autre part, ça me permet de gérer les questions de temps comme un accordéon. La poésie permet des raccourcis ou de rallonger, au contraire, en tout cas, et a une souplesse avec le temps qui n'est pas la même. Au niveau du fond, pour moi, raconter une histoire, c'est aussi plonger dans des réflexions, dans des thématiques, dans des choses qui nous interrogent, et c'est aussi l'occasion, et non pas le prétexte, mais bien, bel et bien l'occasion, par le biais du personnage, de rentrer dans ces réflexions et ces questions qui sont comment faire face à une maladie et comment faire face à une survie. Voilà. Ces questions qui vont se nouer dans le mot résistance, voilà, vont être pétries de contradictions, toutes les contradictions que vont rencontrer l'ensemble des personnages et tous les personnages que va rencontrer Sandra, avec de très belles rencontres, des rencontres qu'on aurait mieux fait ne pas faire, des rencontres qu'on pense qui seront importantes et qui ne sont pas du tout. Et c'est avant tout une question de rencontre, et ces rencontres vont permettre de se poser des questions.
Donc tu parlais de partie slamée, alors justement, le slam étant quand même propice à la scène, est-ce que tu vois un lien entre les autres métiers, peut-être de comédien, de metteur en scène, de slameur, pourquoi pas, et l'ouvrage que tu as écrit? Donc on va rappeler hein, qu'il s'agit de « Dame pissenlit » par Thierry Morel.
Alors oui, bien entendu, bon, mon métier principal, c'est d'être, mais j'en exerce plusieurs, d'être conteur, comédien et metteur en scène. Donc l'oralité est au cœur de mon travail depuis maintenant plus de 20 ans, en tant qu'intermittent du spectacle. Et donc je ne peux pas faire l'abstraction d'être concerné par l'oralité, même quand j'écris. Si j'ai fait le choix il y a 10 ans de rentrer dans ce monde de l'édition pour justement retrouver un rapport avec la langue écrite et sa richesse. Parce que quand on explore les questions d'oralité, voire d'improvisation verbale, on peut, en tout cas certains, en tout cas, il est possible de ressentir l'impression d'une forme de toute puissance, où tout est possible, on peut tout dire sous toutes les contraintes, sous toutes les invitations. Et n'empêche que quand j'observe et quand je suis spectateur de ces choses-là, j'assiste quand même à un appauvrissement de la langue, du vocabulaire, des constructions. Alors parfois il y a des enrichissements, mais parfois des appauvrissements. Et donc c'est pour ça que je suis revenu à l'écrit, pour dire, mais les deux peuvent se nourrir. Ne nous perdons pas dans un océan et ne nous enfermons pas sur une île. Voyageons entre les deux. Et pour moi, vraiment, ce type de roman, tout comme le précédent, Graine de V, où il y avait vraiment des structurations assez proches entre de la poésie et de la narration, nourrit ces deux choses. Donc oui, il y a une invitation à dire à voix haute, évidente sur certains passages.
Donc, Dame Pissenlit, ce roman est publié maintenant, il est sorti.
Oui, il a été publié chez MVO Éditions. Voilà, il est sorti, donc il continue sa petite vie. Alors, on est loin des grandes scènes éditoriales nationales. Néanmoins, on le fait très sérieusement, en toute légèreté et en toute simplicité, pour essayer de défendre ce qui nous semble important. Voilà, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit de le faire sérieusement. C'est pas parce qu'on fait les choses sérieusement qu'on doit se prendre au sérieux. Je trouve que le rapport avec les éditions MVO est justement dans cette chose-là qui allie professionnalisme et simplicité. C'est une maison d'édition à deux têtes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce qu'il y a une tête qui est dans le Nord-Pas-de-Calais et il y en a une qui est dans le sud de la France. Et ce sont deux personnes vraiment complémentaires qui font un bel accompagnement de l'ouvrage et qui essaient de le défendre et qui sans doute écoutent cette émission à l'instant T.
Et donc, Dame Pissenlit pourrait avoir un avenir sur scène ?
Alors, je ne peux pas m'empêcher, quand j'écris quelque chose, de fantasmer, d'imaginer, de rêver. J'aimerais bien, néanmoins, les conditions de production de spectacles vivants étant ce qu'elles sont, et puis moi, ayant ma position dans ce milieu-là, qui est celle qu'elle est, à savoir non liée à des institutions culturelles dotées de moyens conséquents, pas liées à des grandes institutions telles que des théâtres nationaux, des salles nationales qui permettent de produire des choses un peu conséquentes. Je, modestement, oui, il m'arrive en lecture spectacle, en rencontre d'auteurs, moi, de dire moi-même des fragments de texte, de choses comme ça, avec grand plaisir. Alors après, si une compagnie de n'importe quel type, qu'elle soit amateur ou professionnelle, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, souhaitait en faire un projet d'adaptation, ou même, assez souvent on parle de cinéma sur certains contenus, j'en serais ravi de pouvoir partager et découvrir une œuvre qui vivrait autrement, ça j'en serais ravi. Après, sur des œuvres aussi conséquentes et aussi tenues, alors que moi je défends des productions vraiment minimalistes, mais de qualité, là je pense qu'avec les moyens qui me sont appartis, je ne pourrais pas en faire grand-chose. Donc du coup, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé la porte d'entrée pour cela. C'était le cas sur mon précédent roman. Je caressais l'espoir de pouvoir monter une production un peu conséquente autour de Graines de V, chose qui n'a jamais eu lieu. Et là, avec tous les épisodes de difficultés culturelles que nous avons traversées, monter des productions un peu ambitieuses et conséquentes ne sont pas tout à fait à l'ordre du jour, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
Donc ce roman, Dame Pissenlit, a été démarré, on va dire, a démarré dans l'écriture il y a 6 ans, hein, Thierry Morel. Est-ce que ce temps, depuis 6 ans, et comment on le ressent au travers de ce roman, comment tu as vu l'évolution, et est-ce que les prochains livres que tu pourrais écrire auront un contexte vraiment différent ? Et que tu pourras en témoigner au travers d'autres écrits, par exemple.
Alors, la construction de ce livre est singulière parce qu'il m'arrive régulièrement de laisser reposer un manuscrit. J'écris en plusieurs étapes et de revenir dessus. D'habitude, ce sont des étapes qui peuvent s'étendre entre maximum 1 an et demi, 2 ans. Après, ça devient un livre ou pas. Là, c'était un cas un peu singulier, parce que j'étais profondément touché, intéressé et puis passionné par le personnage de Sandra. Et à la fois, les projections que j'avais d'écriture ne me convenaient plus. dans le plan initial. Donc quand j'en ai repris, je me suis rendu compte que le personnage était plus fort que l'histoire que j'avais pu échafauder. Et donc réellement, c'est elle qui a pris la parole, qui a pris la plume, qui s'est emparée. Donc c'était un moment où j'étais peut-être désemparé, perturbé, en me disant « Oh là, il y a une créature !» qui héberge et elle prend le pouvoir. Alors c'était peut-être un refus de se lâcher prise ou alors que je n'avais pas, je pense inconsciemment, je savais que si je m'y remettais, j'allais devoir m'y consacrer pleinement, exclusivement. Et donc du coup, le premier confinement était idéal parce que moi, d'un seul coup, je ne tournais plus sur scène et je n'avais plus du tout de travail, du moins en présentiel pendant un certain temps. Donc voilà, ça c'est que des intuitions. Après, je ne peux pas être ultra objectif sur cette chose-là, mais voilà moi comment j'ai ressenti dans la production du travail. Et puis après, sur les créations à venir, là j'ai un roman... qui est terminé, que je n'ai pas encore soumis à des éditeurs. Là, pour le coup, je reviendrai dessus, mais pas en termes de modification fondamentale, qui suit un petit peu les traces de cette expérience, mais avec un ton radicalement différent, beaucoup moins basé sur l'émotion, l'introspection du personnage, mais ramené sur l'absurdité d'une situation. À savoir ces quatre personnes qui vont se suivre dans la forêt de Falampin, et notamment un homme qui fait sa crise de la quarantaine, une punk à chien et un migrant. Et il y a une dame qui promène son chien, qui les voit et qui dit « Vous vous suivez, vous vous rendez même pas compte. » Donc voilà de ce parcours-là, avec pour le coup une langue beaucoup plus virulente, j'ai envie de dire, beaucoup plus sarcastique, beaucoup plus tranchante sur les questions, notamment de la migration.
Alors, je sais que tu t'es toujours intéressé aux problèmes de société, hein, Thierry Morel. Est-ce que le temps actuel permet à des artistes, on va dire des artistes, de s'emparer de choses qu'on laisse peut-être un peu trop aux médias ?
Oui, je pense qu'il est temps de reprendre la parole sur certaines actions tant qu'on ne s'en sent pas obligé. La question de la légitimité... Ça s'en est encore une autre, mais à partir du moment où une parole artistique demeure artistique et n'a pas d'autre prétention de devenir politique ou scientifique et s'impose par elle-même, je pense qu'il faut l'accueillir et je pense que ceux qui essaient tout de suite d'intellectualiser en disant « oui, mais de quel droit vous de ferait mieux juste de lire ou d'écouter ?» Et après que ce soit sujet à réflexion. Voilà. Donc sur cette manière-là, pour le moment, moi, sur les questions actuelles, je n'ai pas ressenti le besoin. Alors, les questions d'enfermement, c'est une thématique qui revient souvent dans mes écrits. J'ai écrit, après l'inondation, une épopée, donc qui parle vraiment là d'une situation théâtrale d'enfermement dans un bunker survivaliste. Donc là, c'est lié à ce qu'on a pu vivre, mais par contre, les questions liées à la pandémie n'étaient pas invitées dans ce propos. Et la question climatique est au centre de cette pièce de théâtre, vu que c'est après l'inondation, une épopée. Donc on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs rencontres autour de ces deux ouvrages, vu qu'ils sont sortis en même temps. Et je pense que c'est notre camarade de Radio Scarpe Sensée, Jérôme Bailly, qui synthétisait en disant « c'est deux livres sur l'espoir ». Voilà. Et malgré les difficultés, oui, je crois qu'il y a cette lumière qui a vraiment guidé l'écriture de ces deux écrits.
Donc, on vit un moment un peu complexe. On a eu une période, pratiquement une année, voire plus, où toi, tu as repris le temps d'écrire, forcé, et d'autres ont peut-être commencé seulement à prendre le temps de réfléchir. Est-ce que ça peut se croiser ?
Ah oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, moi, je pense que dans le travail d'écriture, ce que je découvre avec le temps, maintenant que ça fait une dizaine d'années que j'ai publié une vingtaine d'ouvrages, en sachant qu'il y avait des choses très petites et très courtes, je découvre qu'il y a deux temps complètement différents qui sont le temps d'écriture et le temps de rédaction. Et le temps d'écriture n'est pas lié au moment où on est devant un clavier ou un stylo. Ça s'écrit en marchant, ça s'écrit la nuit, parce qu'on est obsédé par ce personnage. On la voit, cette usine, nous réveille dans la nuit, ou elle nous perturbe en plein boulot dans la journée. On se dit, mais pourquoi je pense à cette usine? Pourquoi je pense à cette personne qui prend la parole? Parce qu'on est en train de la construire, on est en train de l'écrire mentalement. Il se trouve qu'à un moment donné, ce temps-là va se prendre vie, prendre, comment dire, forme concrète, quand on prend le stylo, ou quand on prend le clavier, et on va le rédiger. Voilà. Pour moi, ce sont deux temps différents. Alors moi, j'en suis toujours au carnet et au stylo, voilà, où il y a un premier jet qui sort, totalement imparfait par définition, et ensuite le temps de saisie informatique, où je ne me permets pas de saisir informatiquement tant que j'en suis pas soit à la moitié, à une partie qui se tient toute seule, ou soit quand j'ai terminé totalement. Et après, il y a un travail de relecture fondamental avant de soumettre auprès des éditeurs.
Donc je suppose que chaque écrivain a sa méthode, méthodologie, on va dire, hein, que l'essentiel, c'est bien sûr le point de vue aussi du lecteur.
Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Chacun fait comme il veut, comme il le sent. Moi, c'est vrai que j'ai parfois des camarades qui parlent de rituels. Moi, j'écris quand ça vient. Ça peut être n'importe quand. Ça peut être derrière un rideau avant de monter sur scène. Ça peut être aux toilettes. Ça peut être la nuit. Quand le temps de fabrication de l'histoire mentale est arrivé à échéance et qu'il y a un besoin que ça sorte et que ça prenne une forme concrète par l'écrit. Moi, c'est mon ressenti, mais chacun le fait autrement. Et donc, moi, j'ai l'occasion d'intervenir très régulièrement pour des ateliers d'écriture. Et c'est une phrase que je dis régulièrement. Je disais, nous avons tous un livre en nous. Deux. Ça, c'est autre chose. Mais un, sûr.
Donc, bien sûr, chacun peut avoir son livre et j'espère pouvoir l'écrire avant de disparaître. C'est ce qu'il laisserait, c'est un don, un legs à la société.
Je pense que les expériences liées au confinement et donc au temps retrouvé, hein, qu'on nous vole parfois dans nos fonctionnements sociétaux pervers, eh bien, ont permis à un certain nombre de gens de prendre conscience de ça. Et mes camarades éditeurs ont été littéralement submergés. Et quand on discute avec certains éditeurs, alors bon, il y a toujours les points de vue des uns et des autres, mais globalement, ce que j'entends, beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Et donc, moi, cette phrase que je dis régulièrement en atelier d'écriture, je continue à la dire, et comment dire, fort de cette expérience, en disant, ça s'est vérifié. Quand on prend le temps de ça, et bien, il y a de belles choses qui peuvent vivre. Et donc, oui, pour moi, il n'y a pas de niveau. Moi, de toute façon, je réapprends le métier à chaque fois que je recommence un nouvel ouvrage. Alors, bien sûr, on a une expérience, on a des choses, mais n'empêche qu'on redécouvre ce jeu de la création d'une histoire, on redécouvre le jeu de manier la langue, on redécouvre cette chose-là.
Quand on écrit, j'imagine chacun écrit en fonction de sa façon de travailler, peut-être aussi son imagination, son expérience, sa rencontre et son analyse du monde.
Ah oui, je pense que le métier d'auteur, tout comme le métier de conteur, qui est différent du métier de comédien, où là, on a l'obligation d'être à nu et d'être soi-même. Et quand bien même on ne raconte pas quelque chose qui est de l'ordre de l'autofiction, de l'autobiographie, nous sommes à nu et c'est bien notre matière première personnelle qui est sur la table. Sur la table. Donc il faut rechercher, je pense, dans la langue, que ce soit dans le fond et dans la forme, une forme d'expression la plus authentique, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose de l'ordre de la confession permanente. On peut être authentique dans un ton qui nous correspond peut-être pas du tout.
Comment on fait la part de la réalité de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, et de la fiction, de l'imaginaire.
Alors moi, ça s'est vraiment réparti au fur et à mesure de mes ouvrages. Quand j'ai commencé à écrire, donc maintenant il y a plus de 10 ans, même si le premier livre est sorti en 2011, je l'ai bien évidemment écrit avant, on était à l'âge d'or de l'autofiction, étant dans des dans mon parcours singulier, j'ai soit cédé, soit eu l'envie de m'exprimer par ce biais-là. Donc mes deux premiers ouvrages, 3 douzaines et Fred Loram, étaient, on va dire, de nature autofictionnelle. Donc c'est-à-dire que j'utilisais une matière personnelle, vécue, que je m'efforçais de mélanger au moins 2 voire 3 sources. Quand un personnage était créé, ce n'était jamais une personne qui existe dans la vraie vie. Elle était toujours mélangée avec au moins une deuxième personne, voire une troisième. Et au bout d'un moment, j'ai moins ressenti ce besoin. J'ai eu envie d'explorer d'autres choses, notamment Graines de Z, qui est un univers post-apocalyptique, ou alors Reconstitution, où on est vraiment dans le post-thriller, voilà. Donc dans les genres, dans les manières de s'exprimer et dans les thématiques, j'ai eu besoin de m'écarter de ça. Et il se trouve que Dame Pissenlit renoue avec le roman social, et à la fois le point de départ de cette Dame Pissenlit, c'est une jeune femme que j'avais rencontrée sur un festival. Voilà. Donc il y a quand même une base d'autofiction, mais par contre tout le récit, toute la construction sont d'une autre nature. Par contre, les propos liés à la question du cancer et à la question de la migration sont nourris par mes différentes expériences. Donc d'une part, depuis maintenant plus de 6 ans, je porte sur scène des spectacles de prévention cancer du sein et cancer colorectal. Donc j'ai eu un grand nombre d'expériences de forums santé, de colloques, de réunions, de discussions, de débats avec des médecins. Et puis par ailleurs, j'ai eu un certain nombre d'expériences sur les questions de migration. Donc bien évidemment, tout ça nourrit le propos.
Est-ce que dans la vie, j'imagine qu'on puisse avoir plusieurs phases, est-ce que chaque phase est propice à un imaginaire différent en termes d'écriture ?
Oui, j'imagine que tout ça est en nous, mais quand certaines portes sont ouvertes, peut-être que d'autres sont fermées. Alors, on aimerait pouvoir toutes les ouvrir en même temps, mais est-ce que ça ne ferait pas de la bouillie ? Voilà. Voilà, comme une pizza où on peut mettre tout ce qu'on veut, et au bout d'un moment, c'est parfaitement immangeable. Donc peut-être que c'est un cycle naturel, ça je ne le maîtrise pas encore, je ne peux pas avoir d'avis fermé là-dessus. Mais oui, je pense que dans nos phases, il y a des choses qui s'imposent à nous.
Alors pour conclure, Thierry Morel, est-ce que l'appétit d'écrire va avec l'appétit de vivre ?
Oui, parce que écrire, c'est raconter, c'est donc mentir sur une chose qui n'a pas existé. Et pour que le lecteur puisse y croire, il faut mentir le mieux possible pour qu'il y croie. Et comment mentir, comment créer du mensonge auquel on s'accroche s'il n'est pas basé sur du réel? Donc oui, il faut absolument visiter des friches industrielles, rencontrer des gens, se nourrir de toute cette vie pour créer l'illusion que oui, il y a bien eu une ZAD à Saint-Omer avec comme symbole un pissenlit.
Merci Thierry Morel.
Merci.